commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington DC. C'est vendredi aujourd'hui, dit qui dit vendredi, dit Island Music. Beaucoup d'amis m'ont écrit, m'ont dit, Roger, on n'a pas trop bien, on a raté l'interview de Jocelyn Béroard de Cassav. Ah oui, je l'ai reçu cette semaine, et beaucoup d'amis n'ont pas eu la chance de l'entendre. Alors aujourd'hui, on va faire une rediffusion de cette interview, donc cette émission, comme ça, pour ceux-là, nous et à tous nos amis, des fans de Cassav qui ont raté, vous allez pouvoir suivre aujourd'hui. Attachez vos ceintures, on décolle. Oui, la superstar de Cassav, Jocelyn Béroard, sera mon invitée ce soir pour nous parler de son tout dernier livre, parce que moi j'ai essayé de lire ce livre-là, j'ai beaucoup adoré. Mais on le fait toujours avec l'ambiance de la musique. Oui, ce soir, qu'on est serré, c'est elle. Et là, nous sommes déjà en train de traverser l'Atlantique. Nous allons à côté de Guadada. Nous allons bien sûr passer vers Haïti, chérie, Guadeloupe, Martinique et consorts avant d'arriver à Africa Bambaata. Attachez bien vos ceintures de sécurité, les amis. Tout de suite, on décolle. Ah ouais, que de la bonne musique, hein.
Pour nous faire parler, connaître, c'est qu'à la paix, c'est pas tant pour nous. c'est vraiment un privilège, un honneur de vous recevoir. Et surtout pour mes auditeurs et mes téléspectateurs qui vous adorent aussi. D'abord, je commence par vous demander, hein, Jocelyne, comment vous allez, hein?
Comment je vais? Ma foi, je vais bien. Ouais. Je suis à Paris depuis à peu près 8 jours. Et je fais la promotion de mon livre qui vient de sortir. Ouais. Donc, j'ai des journées un peu chargées. Mais c'est pour la bonne cause, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque personne a sa partie du livre qu'elle préfère ou sur laquelle elle a envie d'avoir des précisions, ce qui fait que c'est très intéressant parce que je répète pas toujours la même chose, quoi, voilà.
Exactement. Je m'imagine, parce que ça m'a pris vraiment, avec Karine, on a pris beaucoup de temps pour programmer cette interview. Je me suis rendu compte que vous devez être vraiment occupé, vous êtes tellement chargé, et on va parler de ce livre-là, d'ailleurs. Mais d'abord... l'actualité, à part le livre, est-ce que Jocelyne est en train d'enregistrer, de travailler,
hein? Non, je veux pas tout faire à la fois, parce que quand on écrit des textes, je veux dire, on aime bien être un peu en solitude et ne rencontrer des gens que lorsque c'est nécessaire, quoi.
Voilà. Que lorsque c'est nécessaire.
Ouais. Dans tout le mouvement qu'il y a là, je veux dire, j'ai oublié tout le reste. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai une chanson à te faire écouter », je dis « Envoie ». C'est pour plus tard.
Voilà. Pour plus tard. Alors, Jocelyne, vous avez fait le monde, vous avez beaucoup de fans partout dans le monde, et en Afrique en particulier. Quel bon souvenir vous gardez, hein, d'Afrique, hein?
Ah, je sais pas, quel bon, c'est quel avec au pluriel. C'était toujours des découvertes, je veux dire, le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Congo, c'est pas... Voilà, donc chaque pays avait son cachet, et je veux dire, à chaque fois, c'était toujours pour nous un émerveillement. En tout cas, à chaque fois que moi j'allais en Afrique, je découvrais des gens. Bon, je connaissais déjà beaucoup, j'avais beaucoup d'amis qui étaient originaires du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, etc. etc. Et donc je connaissais un petit peu, via eux, les gens de là-bas. Mais être sur place, les rencontrer, quelquefois être invité chez eux, dîner, déjeuner avec eux, causer avec eux, partager des moments avec eux, c'est inestimable, quoi. Je veux dire, ce sont des moments toujours qui vous enrichissent, parce que là on sait qu'on rencontre d'autres des gens qui sont pas nécessairement justement différents de nous, mais qui ont aussi plein de choses, plein de différences. Et c'est ça qui est génial. Parce que ces différences-là, ou ces petites choses qu'on découvre chez celui-ci ou celui-là, nous motivent et nous permettent de... Je veux dire, ça nous enrichit quelque part. Ça nous enrichit. Moi, quand j'ai été en Côte d'Ivoire, que j'ai vu tous les stylistes qu'il y avait là-bas, ce qu'ils créaient et compagnie, moi qui aime de temps en temps jouer à la couturière ou me poser des questions sur le prochain vêtement que je vais mettre, moi, je veux dire, ils m'inspirent. Voilà, je suis inspirée par ça. Quand j'écoute telle ou telle musique, c'est pareil. Et alors, quand vous partez dans des lieux où ils ne parlent pas le même langage que vous, comme par exemple le Cap-Vert, l'Angola, le Mozambique, et où les gens sont aussi fanatiques et aussi aimants, et ont une autre façon, c'est un autre art culinaire, par exemple. Donc, on va de découverte en découverte. Et je crois que ça, c'est... peut-être que si je devais souhaiter à chacun... quelque chose de beau, ce serait de pouvoir beaucoup voyager. Il faut aller voir ailleurs. Il faut parce que, bon, en fait, ce monde est magnifique. Ce monde vous offre des tas de choses. Je veux dire, des paysages différents, une architecture différente, une façon de vivre différente aussi, mais qui est aussi belle, tout aussi belle que la nôtre, quoi. Je veux dire, c'est partager avec l'autre, c'est un enrichissement, mais c'est aussi un immense bonheur, quoi. Voilà. Non, pas du tout. En fait, je pensais toujours que j'allais voyager, parce que quand on était petit, nos parents, bon, avaient la chance de pouvoir nous amener de temps en temps dans les îles voisines, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de connaître quelques îles de la Caraïbe, déjà petites, Ensuite, ma mère était fonctionnaire, elle était professeure d'anglais, donc tous les 5 ans, il y avait des voyages qui étaient possibles. Et donc, j'ai eu l'occasion, à l'âge de 12 ans, de connaître Paris, la France, et puis le sud de la France aussi, un peu, et puis l'Allemagne, etc., parce que mon père voulait aller faire un tour là-bas. Enfin, bref, voilà. Donc, j'ai quand même eu la chance de pouvoir voyager dès petite. Et donc, cet esprit de vagabondage était déjà en moi. Qui fait que quand Cassava dit on va à tel endroit, c'était youpi, on y va. La seule chose que je déteste dans les voyages, c'est de devoir faire des valises. J'aurais aimé être suffisamment riche pour tout acheter en arrivant. J'ai horreur de faire des valises. Voilà. Il y a plein d'endroits que j'adore. Il y a des endroits où on n'est pas resté assez longtemps. Par exemple, on est allé à Dubaï. On est resté 2 jours, on a réussi quand même à aller faire un tour près du désert, tout près du désert, mais en fait, le chauffeur qui nous conduisait nous a...
Ouais.
En turlupe. Il nous a bien eus, parce qu'il nous a fait croire qu'il savait où aller. Moi, ouais. Je voulais faire des photos de dromadaires au coucher du soleil et j'ai tout raté. Parce que je fais de la photo aussi.
Ouais.
Donc j'aime bien, si j'ai un petit peu de temps, j'aime bien pouvoir aller vagabonder avec mon appareil. Et depuis la voiture, souvent, je fais plein de photos pour ramener quand je n'ai pas le temps, justement, de parce qu'on ne paye pas des vacances, hein, quand on va ramener. Le groupe, c'est 20 personnes.
Ouais.
Donc le groupe est très lourd. Et on vient, on se repose, on joue et on repart. Sauf quand c'est très loin. Alors, quand on doit aller en Nouvelle-Calédonie, tout ça, comme il y a une trentaine d'heures, enfin 24 heures, entre 24 et 30 heures pour arriver là-bas, là, on vous donne le temps de récupérer Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça. On reste à peu près entre 5 jours et une semaine.
Quand même, hein.
Oui, parce qu'il faut bien récupérer. On est à l'envers, hein, Tahiti.
Ouais.
Quand il est midi à Paris, il est minuit à Tahiti.
Oui.
Donc, on est complètement à l'envers.
Complètement.
C'est à 4 heures du matin, vous ne savez pas où vous êtes. Quoi. C'est le matin à 4 heures du matin, mais pour vous, c'est déjà l'après-midi. Donc, vous allez bientôt aller dormir.
Ben c'est bien d'avoir une passion aussi, c'est bien. Et voilà que certains auditeurs et téléspectateurs peut-être découvrent que Jocelyne a une autre passion, la photographie, c'est une bonne chose aussi.
Oui, j'ai toujours aimé ça en fait. Dans mon livre, j'explique pourquoi en fait je faisais des tas de choses. C'est que je ne voulais pas perdre la tête. Mon père c'était quelqu'un d'assez sévère. En fait, il voulait nous protéger, donc il ne nous laissait pas toute la liberté de sortir avec les copains, etc. Ce qui fait que, bon, quelquefois, il y avait des zouks à côté de la maison et j'entendais la musique, mais je n'y étais pas. Donc, je ne voulais pas, je refusais de sombrer dans l'amorosité. Donc, comme j'utilisais beaucoup mes mains, je cousais, je peignais, je faisais de la photo, tout ça.
Ouais.
Donc, j'ai pris l'habitude de faire ça. Quand j'étais petite, je dessinais des poupées, je les découpais, je les mettais sur des cartons, je fabriquais leurs vêtements avec du papier à côté, etc. Je faisais toujours quelque chose. C'était bricoleuse, quoi. J'aimais ça.
Et vous venez de dire que papa n'aimait pas que vous soyez chanteuse zouk ou quoi. Mais vous étiez choriste, hein, n'est-ce pas? Je pense que vous étiez choriste à l'église.
J'ai commencé.
Et ma question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que papa a dit après quand cette superstar est devenue...
Alors, il a été fait appeler. Au début, quand il est venu et qu'il est venu nous voir, ma soeur et moi, parce que ma soeur de temps en temps chantait avec moi, ma soeur, ma cousine aussi, qu'il est venu nous voir sur scène, les gens lui ont dit tellement de belles choses sur nous que bon, il ne pouvait pas être contre, quoi.
Ouais.
En plus, à cette époque-là, bon, j'étais devenue déjà quasiment professionnelle, donc il ne m'envoyait plus d'argent par mois pour que je puisse vivre. Je payais mon loyer toute seule, quoi. Donc, il ne pouvait pas intervenir dans ma vie. Il était juste inquiet.
Il était
inquiet parce que pour nos parents, être artiste, c'était avoir envie de mourir de faim à un moment, quoi.
Ouais, mais...
C'était un peu ça.
Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de parcourir un peu le livre. Je dois commencer par là, en fait. Pour nous qui vous avez, enfin, on s'imagine qu'on vous a très bien connu, hein, les Cassav et Jocelyne, c'était notre. Moi, je suis originaire du Congo. J'étais à Kinshasa.
Et
je m'imagine quand Cassav est venu, je peux pas vous dire, mais on avait une expression à Kinshasa où quand les Cassav sont venus, nous on a sauté les murs. Alors sauter les murs, ça veut dire vous ne dites pas aux parents parce que les parents ne veulent pas que vous allez rester. Alors on sautait les murs pour aller voir les cassins.
Pour aller voir. On appelle ça chez nous les chats.
Ah, les chats.
Non, pas les chats, c'est chats.
Chats seulement.
Ouais, ouais. En chats ou bien les chats.
Ah, d'accord. Ah, ben c'est ce que nous on faisait alors.
Chats.
C'était exactement ça ce qu'on faisait. Mais alors, quand je reviens un peu à l'ouvrage. Quand je suis en train de parcourir le livre, je me suis dit, mais il était plus que temps que je finisse d'écrire ce livre. Mais il était plus que temps. C'est tout un film.
Exactement. Moi, c'est ce que, en fait, j'ai ressenti en 2013, lorsque j'ai dit, il est temps d'écrire. C'était depuis 2013.
Ah, ok.
Il est temps d'écrire l'histoire de Cassav.
Ouais.
Et parce qu'on avait déjà vécu tellement de choses. On avait fêté les 30 ans. On allait vers les 40 ans, etc. Et je me suis dit, il est temps d'écrire cette histoire. D'autant que Patrick était mort en 2010.
Oui.
Bon, il avait quitté le groupe en 2002, mais malgré tout, il faisait partie de nous, Patrick. Il faisait partie de ce groupe. Et quand il est parti, je veux dire, on a commencé à entendre des tas de choses sur lui, etc., etc. Je me suis dit, il ne faut pas que les gens réinventent la vie de Cassav. Ce n'est pas l'autre qui doit écrire ton histoire, c'est toi-même qui dois écrire ton histoire. Donc, j'ai pris sur moi de devoir écrire cette histoire-là. Alors, au départ, j'ai un ami qui est écrivain, puisque moi j'écris des chansons, hein, donc je ne sais pas écrire de livres au départ, en 2013. Donc, j'ai Bertrand Dical, qui est un grand ami, a passé des jours et des jours à m'enregistrer, où je lui racontais des tas de choses. Alors, pour m'aider, heureusement que je n'avais pas de journal à proprement parler, mais j'avais tous mes agendas que j'avais gardés et sur lesquels je notais des petites choses comme ça, ce qui fait que j'ai pu retrouver certains événements. Ouais. Mais globalement, je lui ai raconté toute ma vie, mon enfance, et puis toute l'épopée Cassav, quoi, quelque part. Ouais. Donc, il a tout enregistré et il a rédigé. Il a rédigé en jeu. Le livre était très beau, mais c'était sa parole.
Oui. Ah, c'était sa parole.
Oui, c'est-à-dire que c'était sa façon de parler à lui. Quand il dit « je fais ceci, cela », etc., il le disait à sa manière.
Ah,
pas
okay.
Ma manière.
Ok. Et là, alors, vous deviez changer.
Donc, j'ai entrepris, je lui ai dit, écoute, ton livre est magnifique, merci beaucoup pour le travail effectué.
Oui.
Donc, je le garde tel quel, c'est-à-dire je garde le squelette, mais je vais tout réécrire. Donc, j'ai quasiment tout réécrit à ma manière,
okay.
Avec mes mots, avec mon rythme, avec mes pensées, quoi, par exemple. Ouais. Voilà.
Ah, ben c'est mieux comme ça. Hein.
Comme je dis, si un jour on doit faire un reproche, je ne veux pas qu'on me reproche quelque chose que je n'aurais pas dit. Voilà.
Ouais.
Donc je préfère prendre la responsabilité de l'écriture. Voilà.
Il faut quand même dire que c'est plus de 400 pages, hein.
Non.
Mais non.
Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Le livre au départ faisait 450 pages.
Ouais.
On l'a descendu à moins de 300 pages.
Ah.
Le livre a peut-être au total 320 pages, au total, je crois.
Ouais.
Mais il y a quelques pages de photos dedans.
Oui.
Donc
ouais.
Il faut ôter les pages des photos et c'est un peu moins de 300 pages.
J'ai vu quelques photos, des très belles photos. Mais alors, Loin de la mer, pourquoi ce titre, hein?
Eh bien, parce que déjà, alors au départ, mon premier titre.
Ça commence toujours avec.
mais oui, parce que c'est toute une réflexion à chaque fois.
Ouais.
Je veux dire, le tout premier titre, c'était La Pagaie d'or. La Pagaie d'or, c'est-à-dire qu'on ramait, c'était la galère. Parce que vous savez, quand on vous dit c'est une galère, parce qu'on a fait plein de concerts, quel que soit l'endroit, qui était galère. Voilà.
Comment la galère? Dans quel sens?
Ben on a eu pas mal d'aventures. Quand vous allez lire le livre en profondeur, vous allez voir toutes les aventures qu'on a eues. Et moi j'ai dit, mais Cassav mérite la pagaie d'or, c'est pas possible. À la limite je me disais, mais c'est peut-être pour ça que les autres artistes, les big stars, restent déjà suffisamment de monde pour gagner leur vie.
Ouais.
Je veux dire, ils n'y allaient pas parce qu'ils savaient très bien que ça ne se passerait pas tout à fait comme il faut. Et puis, il faut dire aussi que beaucoup de nos de nos organisateurs, que ce soit dans toute la Caraïbe ou, et quelquefois en Afrique, je veux dire, ils s'improvisent organisateurs. Ils n'ont pas fait d'études pour ça. Ils n'ont pas... Voilà, donc ils sont fanatiques ou alors ils pensent qu'ils vont faire un tas d'argent, donc ils veulent faire venir le groupe qui fonctionne, qui va faire venir du monde. Et le problème, c'est que souvent les choses sont traitées à la dernière minute, donc ça coûte 4 fois plus cher. Quand le gars se retrouve en fait à devoir payer tout ce qu'il a à payer trop cher parce qu'il s'y est pris trop tard, parce que les autres lui mettent la corde. Donc, tu viens la dernière minute, tu sais que tu as besoin de moi, donc tu vas payer ça, quoi, c'est tout. Et donc, ils se retrouvaient un peu dans l'embarras, et quelquefois, ils disparaissaient dans la grande Afrique, et on n'était pas payés au bout du compte. Et comme nous commencions aussi, on n'avait pas non plus une équipe très affûtée.
Ouais.
Donc, c'était des gens qui étaient sympathiques, ça se passait bien, tout le monde était content, voilà, on est cassables et compagnie, etc. Et ils ne surveillaient pas suffisamment leurs arrières. Donc, quand ils cherchaient le bonhomme à la fin, il n'y avait plus personne, quoi. Et donc, on a eu plein de mésaventures comme ça. Mais bon, ça nous a fait rire, parce que je crois que ce qu'on retient de toutes ces tournées-là, c'est l'accueil qui nous était réservé, parce que les gens étaient vraiment... soutenait le groupe, quoi. Soutenait le groupe, et je dois dire, et je le dis et je le répète, Kassav, si Kassav a été appelé par des majors en France, c'est bien parce que les gens constataient qu'en Afrique, ça faisait un réel tabac, et qu'ils se sont dit à un moment, mais je crois qu'on rate quelque chose, parce qu'en France, on n'existait pas encore. Quand on a commencé à tourner en Afrique, il y avait très peu de gens qui soutenaient Kassav. Il y avait une radio comme Radio Nova, il y avait des journaux comme... on avait des articles dans Libération, il y avait le journal Actuel, des choses comme ça. RFI a beaucoup passé, diffusé Kassav avec Gilles Aubringer à l'époque. Avait une émission de musicale.
Ouais.
Il passait le soir de la musique antillaise et il a vraiment fait démarrer Kassav par le biais de RFI. Mais la France elle-même ne connaissait pas Kassav, n'était pas voilà. Et c'est quand en fait quand j'ai fait mon album en décembre 86 avec le titre Colestéré, en 87 j'ai fait une télé avec Philippe Laville qui m'a demandé de faire une reprise avec lui.
Oui.
C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à entendre un peu une vague interprétation, enfin pas une vague, une interprétation de la musique de Kassav, puisqu'on avait tout refait avec Philippe, puisque Philippe lui faisait de la variété française.
Oui.
Donc automatiquement ses arrangements n'étaient pas aussi West Indian que les nôtres, quoi. Et donc ils faisaient parce qu'ils s'adressaient au peuple français. Voilà, et donc ils ont commencé à s'habituer à me voir, à entendre un peu le son de Kassav, un petit peu. Ce qui fait que quand Kassav est arrivé en décembre 87 en France, le terrain était prêt.
Le terrain était prêt. Et qu'est-ce qui a fait alors que ça prenne, que ça explose en Afrique, d'après vous, hein?
Je pense que déjà, ça a explosé en Afrique pour les mêmes raisons que ça a explosé chez nous. C'était une musique qui était énergisante, c'était une musique qui vous rendait gai, c'est une musique qui vous donnait la pêche. Voilà, je crois que c'est ça. C'est une musique dans laquelle tout le monde se reconnaît parce que, je veux dire, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez sauter dessus, vous pouvez
vous asseoir. Vous pouvez zouker.
Voilà, vous pouvez vous asseoir et l'écouter, vous pouvez zouker, etc.
Ouais.
Il y a eu effectivement les formules un peu plus ralenties qui ont rapproché les gens.
Ouais.
Voilà. Donc c'était, mais bon, dans la danse, ça a toujours existé. Hein. Quand il y avait le slow, personne ne regardait ce qui se passait. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on dit que le zouk, c'est une danse sensuelle. Le tango l'a été, la danse classique l'est quelquefois, etc., etc. Donc bon, voilà.
Mais Jocelyne, du coup, ça a un peu changé aujourd'hui. Hein. Votre zouk, c'est pas le zouk qu'on entend aujourd'hui. Ça,
non,
ça
c'est pas le zouk qu'on entend, mais c'est une inspiration du zouk. C'est exactement comme le R&B qui est venu de quoi? Qui est venu du blues.
Du blues, ouais, du blues.
Jazz,
oui. Blues, ouais.
Le reggae est venu du rock steady.
Ouais.
Le rock steady, de quoi? Ben encore du blues, etc. Du rock, tout simplement.
Ouais.
Donc automatiquement, toutes ces musiques, on ne crée jamais à partir de zéro. Personne n'a créé à partir de zéro. C'est parce qu'il y a quelque chose et qu'on veut fabriquer autre chose qui ira plus loin. Qu'on prend une base. Notre base, c'était la musique traditionnelle de chez nous, de la Guadeloupe d'abord. Et puis quand il y a eu des Martiniquais, les Martiniquais, dont moi, étaient nourris quand même avec une bonne base de la musique, des musiques traditionnelles de chez nous. Donc automatiquement, quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez créer sans imiter l'autre. Vous pouvez donc proposer quelque chose à l'autre.
Ouais.
Et l'autre, il le prend et il en fait ce qu'il veut. Mais il n'empêche qu'on reconnaît quand c'est R&B, on dit bien, ah, ça c'est du R&B. Quand c'est du zouk, soyons honnêtes, il faut dire que c'est du zouk. Ah ben, je défends ma paroisse, hein.
Allez, ben, il faut défendre sa paroisse.
Ben oui, parce qu'en fait, on a trop galéré en fait, pour installer ce style musical, pour qu'aujourd'hui, si tu veux, on lui donne toutes sortes de noms, sauf son vrai nom.
Exactement, et vous avez tout créé jusque-là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'adore déjà le livre, mais qu'est-ce que le groupe Kassav, qu'est-ce que cet empire Kassav fait pour continuer avec la nouvelle génération à apprécier alors, cette jeune génération?
Pardon,
Jocelyne, mais il faut quand même se dire que c'est comme si... Vous vous rendez compte qu'il y a encore une génération qui ne fait que penser du Kassav jusqu'aujourd'hui. Donc il y a eu un gap in between, comme on dit.
Alors, je vais vous dire une chose. Tous les musiciens qui travaillent, d'accord, tous les vrais musiciens qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent des tas de choses. Ils ne sont pas obligés d'appeler Armstrong pour savoir comment Armstrong jouait. Ils n'ont qu'à l'écouter et puis se poser les questions. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On imite. Moi, quand j'étais petite, vous savez ce que j'écoutais? J'écoutais Mahalia Jackson, j'écoutais Piaf, ça n'a rien à voir. Les deux, d'accord? J'écoutais Brel, j'écoutais Myriam Makeba, j'écoutais, Célia Cruz. Que des gens qui n'ont rien à voir. Mais j'essayais de chanter comme Célia Cruz, j'essayais de chanter comme Makeba, j'essayais de chanter comme Piaf et comme Mahalia Jackson. Tout ça, ça m'a nourri. Maintenant, quand je chante, je ne suis ni Piaf, ni Mahalia Jackson, ni Célia Cruz, ni machin. J'ai fait mon propre chemin. En fait, on apprend de l'autre, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un musicien vous plaît, parce qu'il vous touche, une musique vous plaît parce qu'elle vous touche, elle vous parle, vos tripes reçoivent la chose. Si vous aimez une musique parce qu'elle est à la mode, c'est que vous n'avez aucune personnalité.
Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
n'allez nulle part ailleurs. Cette interview continue, bien sûr. On parle du nouveau livre, cet ouvrage que vient d'écrire Jocelyne. Nous continuons dans un instant la deuxième partie. Il arrive dans un instant d'aller lui par ailleurs, les amis. Jared West. Peace out, wake up. Avec l'artiste Jocelyne Béroard qui nous parle de son premier livre. Hein. Oui, on l'a connu comme auteur de chansons et aujourd'hui elle est auteur d'un livre, d'un ouvrage qu'elle vient d'écrire, Loin de la mer, Loin de la mer, comme ça s'est dit, bien sûr, en créole. Elle nous en parle et bien sûr on parle aussi du beau vieux temps cassava. Et d'ailleurs dans ce livre, dans cet ouvrage que j'ai eu la chance moi de lire, oh yeah, c'est comme un film, mais elle nous raconte tout. Et Dieu merci que nous avons RM Show parce qu'elle vient aussi nous en parler un peu dans RM Show. On redécolle avec Belle Créative.
C'est la musique des îles aujourd'hui par rapport à votre musique d'antan. La musique antillaise aujourd'hui, comment vous la trouvez?
La musique antillaise a toujours été extrêmement riche. Moi, depuis toute petite, je sais que c'est à l'âge de 7 ans que mon père me faisait déjà écouter Mighty Sparrow qui venait de Trinidad et Tobago. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'entendre, parce que dans ma famille, les gens ont toujours été fanatiques de salsa. Mm-hmm. Donc j'ai entendu tous les vieux morceaux de salsa, mm-hmm, qui étaient sur la terre, les Fania Star, etc. etc. Quand le reggae est arrivé avec Marley, moi j'étais déjà à Paris, mm-hmm, on écoutait déjà Jimmy Cliff.
Ouais,
donc on a toujours été nourris aux Antilles françaises, en tout cas, de toute la musique de la Caraïbe et Haïti. J'ai même pas parlé d'Haïti.
Haïti, le compas
haïtien. Mais oui, le compas haïtien a dominé et est encore extrêmement présent chez nous. C'est une musique que tout Antillais aime. Il n'y a pas une personne aux Antilles, enfin aux Antilles Martinique, Guadeloupe, je veux dire, qui soit insensible complètement au compas. Le compas, c'est une musique qui est une musique majeure de chez nous.
Ouais, ouais.
Donc c'est une musique qu'on aime et c'est une musique qu'on consomme et que etc. Et le zouk, je crois que le zouk est devenu aussi une musique majeure de l'archipel caribéen. Parce que à la Barbade, par exemple, dans la Soca, le groupe, je crois que c'était Square One, ils ont beaucoup écouté Kassav et ils ont eu un Soca qui était différent de celui de.
Donc ils ont fait un peu un mélange, ouais.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils mettaient des touches. Il y avait des choses dans le zouk qui leur parlaient. Donc, ces choses-là, ils les prenaient, ils les remaniaient à leur manière et ils l'inséraient dans leur soca. Et je crois que c'est comme ça. On parle de musique. Moi, je veux dire, la musique, j'ai regardé dernièrement, il y avait le concert, j'ai oublié son nom, mais c'était un Jamaïcain qui faisait un concert avec un orchestre symphonique. C'était Ibo de Third World qui dirigeait les cordes et compagnie. Je veux dire, on peut très bien faire du reggae et aimer la musique classique. Ce n'est pas antinomique. Tout ça, c'est de la musique. À partir du moment où on a compris ça, le seul truc, c'est que bon, si on veut être original, l'idéal, c'est de ne pas faire la musique de l'autre, parce qu'il le fait depuis tout petit, il la connaît et il est champion dans son
pays. Exactement, ouais.
Donc, par contre, il ne sait pas faire la tienne. Donc, autant lui proposer la sienne.
Ouais, ouais.
C'est ça. Donc en fait, mais rien ne t'empêche d'écouter ce que lui, il a fait. Et de comprendre pourquoi ça t'a touché, et puis de te nourrir des trucs. Moi, j'ai chanté plein de trucs de R&B. J'avais tous les disques de machin, Stevie Wonder, Chaka Khan, Aretha Franklin, tout ça. Moi, j'ai tout ça dans ma discothèque.
Ouais.
Et j'ai encore du plaisir à les écouter. Je veux dire, et j'écoute les jeunes aussi qui viennent, enfin, les autres d'aujourd'hui, quoi. Que j'en aime, comme India Harry, tous ces trucs-là, quoi. Donc, c'est. On passe toutes les époques, à chaque fois, on écoute les belles choses qui sont offertes dans ce monde, mais je ne vais pas me prendre pour Stevie Wonder. Je ne suis pas Stevie Wonder. Et lui, il n'est pas Jocelyne Berroir.
Exactement.
Voilà. Donc, le truc, c'est que toi, quand tu t'adresses à l'autre, il faut que tu puisses lui dire, me voilà. Voilà qui je suis.
Et voilà ce que moi, j'en
ai. Et tu es toi, personne d'autre. Voilà. Et il y a un truc, par exemple, un exemple que je peux donner. Au début, par exemple, Lucky Dube, qui fait du reggae,
ouais.
D'Afrique du Sud,
ouais.
Au début, ça m'a un peu énervé. J'aimais bien ce qu'il faisait, mais je me disais, on a l'impression qu'il imite Peter Tosh. La façon de chanter, la voix. Et puis, au fur et à mesure, il a eu son style qui lui
son était... Son style qu'il a transformé, oui, exactement.
Voilà.
Ouais.
Voilà, et moi je suis devenue fanatique à ce moment-là. Voilà.
C'est vrai qu'au début il avait un autre style et puis il a changé après. Ouais.
Il était très
Peter Tosh.
Vraiment très proche de Peter Tosh. Et moi ça m'énervait parce que j'adorais Peter Tosh. Donc,
ouais.
Donc c'était.
Ouais.
Voilà. Donc, mais au fur et à mesure, moi j'avoue, je suis devenue fanatique de Lucky Dube.
De Lucky Dube. Oui, parce qu'il a eu un style un peu, il pleurait mélancolique, un peu. C'était
ouais,
son
mais
style.
Mais il tirait les notes à la manière de Tosh.
Ouais, exactement.
Et puis finalement, mais il avait de beaux textes en plus, je veux dire, Lucky Dube et tout, et c'était vraiment bien. Et se faire tuer bêtement comme ça, c'était vraiment très triste.
C'était trop triste, en tout cas, il nous manque jusqu'à aujourd'hui, il nous manque. Revenons un peu à l'ouvrage. J'ai vu un passage, et on encourage beaucoup de gens à lire ce livre. Moi, j'encourage vraiment les gens à lire ce livre, parce que c'est tout un film, comme je le dis. Bia, je suis d'un pays où il n'y a qu'un mot pour désigner la couleur d'un blanc. Et quelque part, quand on descend, il y a des noms là, des nuances. Il y a Chabin, Mulâtre, Chapé, Kouni, Chabine, Nègre Rouge. Voilà, j'appartiens à la première génération. Ça m'a un peu touché, là.
Non, j'appartiens à la première génération. On a commencé à arrêter d'appeler comme ça. Parce que, en fait, à l'époque, il ne faut pas oublier que il faut toujours revenir à l'histoire.
À l'histoire, c'est très important.
Comprendre un peuple. On est obligé de savoir comment ce peuple-là a été créé. C'est-à-dire quels sont les antécédents.
Ouais.
Les Antillais, en général, sont fabriqués dans la violence de l'esclavage. D'accord ? La violence de l'esclavage...
En général.
Oui, toutes les îles. Il y a eu l'esclavage partout.
Bien sûr.
Je veux dire. Donc, les cerveaux ont été manipulés. Tu vois ? C'était, de toute façon, c'est parce que tu étais noir que tu étais esclave. Donc, les gens savent que s'ils veulent être libres, il ne faut pas qu'ils soient noirs. Donc, ils essaient de s'éclaircir. D'accord ? Parce que celui qui tire les ficelles, il est blanc. Et qu'il a décidé que le noir, machin. Et quand je disais justement cet après-midi, même l'église s'était mêlée de cette affaire-là. Donc, je veux dire, c'était un truc qui était programmé, qui était fait pour que certains puissent avoir de la main-d'œuvre gratuite. D'accord ? Et pour pouvoir bien posséder et bien utiliser ces gens-là, il fallait de toutes les façons travailler le cerveau pour qu'il soit docile. C'est clair. Donc tous n'ont pas été dociles, c'est pour ça qu'il y a eu des révoltes. D'accord ? Mais la plupart étaient facilement, on pouvait les contenir facilement parce qu'ils avaient été fabriqués. quelque part. Et quand je dis fabriqué, c'est véritablement fabriqué. Parce que quand vous avez vécu le traumatisme de la déportation,
ouais,
on peut vous fabriquer, vous malmener le cerveau. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que par la suite, pour défaire ça, c'est pas en deux jours. Voilà. Donc, on est obligé de comprendre cette histoire et se dire que il faut donner à chacun le temps de bien comprendre et de se décider à être debout, tu vois, non pas comme une résultante de ce truc-là, mais simplement comme un être humain.
Ouais.
Voilà. Et que à partir du moment où il est un être humain, il est responsable. S'il veut être boulanger, il faut qu'il apprenne à faire le pain.
Exactement.
S'il veut être musicien, il faut qu'il apprenne à jouer d'un instrument ou apprenne à chanter, c'est tout.
Ouais.
S'il veut être écrivain, il faut qu'il apprenne à écrire. On ne s'invente pas ceci ou cela.
Ouais.
C'est tout. C'est le travail qui te permet d'arriver, d'exister, de réussir et d'aller dire à l'autre, mais voilà.
Exactement. C'est ce qui est très important. Donc, il y a un autre passage où vous avez dit « Mes parents ont vécu à peu près les mêmes expériences familiales. L'amour débordant de leur mère et la sévérité distante du père ou du frère aîné, la rigueur des bonnes manières et la ferme certitude que seules les études ouvrent un avenir serein. C'est ce qu'on appelle à Martinique, éducation bourgeoise. Les parents de Jocelyne étaient sévères côté éducation.
Ils étaient très sévères. Ils étaient très sévères. Si on vous donnait quelque chose et que vous n'aviez pas dit merci, on te dit, hey, c'est tout de suite là, c'est quoi ? Ouais, tu arrives, tu dis pas bonjour aux parents. Moi, les copains qui venaient, qui disaient pas bonjour à nos parents, mon père disait, oh, faites-les ressortir. Ah oui, tu arrives, tu demandes où sont les parents, tu vas leur dire bonjour, et à ce moment-là, tu es autorisé à être dans la maison. C'était ça. Et c'était un minimum, parce que bon, en fait, Je crois que quand on laisse tomber toutes ces petites choses, ben on arrive en fait avec des relations un peu bizarres, quoi, où il n'y a plus de respect entre les gens. Or, le respect ne doit pas être quelque chose de... C'est pas un poids. Moi, respecter l'autre, c'est pas un poids pour moi, au contraire.
Ouais.
Pour moi, je crois que je dois le respect à tout le monde, quoi. Je dois du respect à tout le monde.
C'est un devoir.
Il n'y a pas de grade pour mériter plus de respect que l'autre. Chacun a droit au même respect.
Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est tout. Donc, c'est ce qu'on m'a enseigné.
C'est ce qui est très important.
Parce que ça m'a permis d'aller dans plein de pays et d'accepter des trucs et de comprendre certaines traditions assez rapidement et de pouvoir avoir des relations apaisées avec les gens parce que justement j'avais déjà cette base de...
Vous aviez cette facilité-là de vous assimiler à d'autres cultures ?
Assimiler, non. M'assimiler à d'autres cultures, non. Mais admettre l'autre culture. Admettre que la personne, bon, elle ne vient pas de Martinique comme moi. elle a un autre passé.
Ouais.
Elle a
mais comprendre passé. L'autre, comprendre l'autre tel quel. Hein,
comprendre,
c'est ça,
mais bien sûr, comprendre l'autre et respecter le fait que bon, je ne suis plus chez moi. Et quand je ne suis pas chez moi, je respecte l'autre. Il y a des tas de gens. Moi, je sais qu'on avait on avait une façon de vivre chez nous. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vivre à la Martinique et qui quelquefois imposent leur loi, ce qui n'est pas normal.
Ouais.
Je veux dire, comment tu peux interdire, si tu veux, aux pêcheurs de partir à 5 heures du matin pêcher ? Parce que ça fait du bruit, ça t'empêche de dormir, mais tu es venu à un endroit où il était là avant. Et ça a toujours été comme ça, ça n'a jamais gêné les autres. Les coqs,
ça n'a jamais changé.
C'est moi, ouais. On les entend, mais on dort quand même. C'est ça.
Ouais.
Et les nouveaux venus ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas habitués.
Parce qu'ils ne sont pas habitués, ouais.
Mais c'est ça, le soir on entend les grenouilles, ah ben oui, il y a des grenouilles chez nous. Voilà. Je veux dire, moi, quand je vais à Paris, je ne vais pas n'importe quoi à Paris, je sais qu'à 10h du soir, il faut que je baisse ma musique.
Oui, exactement.
Parce que c'est la loi à Paris, mais c'est moi, je ne viens pas me dire de baisser ma musique à 10h du soir, parce que je ne suis pas habituée à ça, tu vois, c'est tout
c'est,
ça.
C'est la fête 24h sur 24.
Et c'est le respect, justement,
ouais,
des traditions, de la façon de faire des autres. Et personne n'a le droit de venir imposer quoi que ce soit d'autre. Mais bon, maintenant, ça se fait avec la police, donc c'est un peu emmerdant.
Ouais, ça, c'est vrai. Je ne veux pas tout dévoiler, en tout cas dans l'ouvrage, mais je finirai avec ce passage qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai vu que la grand-mère, elle était tellement stricte, parce que bref, il vaut mieux ne pas faire des fautes avec ma grand-mère paternelle, l'institutrice. Oui. Ouais. Et des tantes également enseignantes au lycée, à la moindre entorse orale ou écrite de cette langue française qui représente le sésame. Nous avons droit à un véritable cours de grammaire.
Exactement. Oui, parce qu'il voulait que, en fait, quand on partirait faire des études, que quand si on doit s'exprimer, parler aux gens, qu'on ne fasse pas de faute de français. Ça serait la honte pour eux, pour elles, en fait. Donc on avait droit aux dictées, on avait droit aux cours de grammaire, on avait droit à nous embêter avec le français. Mais bon, on a fini par l'apprendre, puisque de toute façon, il fallait passer les examens en français. Donc,
Waouh. Et vous avez... elle représentait quoi pour vous, votre grand-mère hein?
Mes deux grand-mères, en fait.
Les deux grand-mères, exactement, les deux, ouais.
C'était... Moi, je les aimais beaucoup. Je veux dire, ma grand-mère paternelle, elle a souffert des genoux, donc elle se plaignait beaucoup de ses genoux, mais c'était pas grave. Ce qui était important, c'était l'amour qu'on partageait, et c'était ça, elle nous aimait, et c'était l'essentiel. Ma grand-mère maternelle, maintenant, était plus silencieuse, et elle avait une certaine sagesse. Elle ne prenait jamais parti. Si on venait lui raconter quelque chose, elle disait, je veux entendre l'autre version. Donc elle ne donnait pas raison. On pouvait essayer de la voir, d'avoir son soutien. Non, elle donnait, elle apaisait tout le monde. Et c'était quelqu'un de vraiment... Que j'aimais beaucoup. Je me rappelle à l'époque, il y avait des mini-jupes, là, vous savez, c'était l'époque des mini-jupes et tout. Et moi, j'avais vraiment une mini-jupe, mais grave. Et quelque chose était tombé. Et j'arrivais pas à descendre, à passer le truc. J'étais pas sûre qu'on ne verrait pas mes dessous, quoi, en fait. Et elle était debout à côté, elle me regardait, et elle riait. Et elle disait, je veux voir comment tu vas te débrouiller. Et ça voulait dire, tu as compris qu'il faut que tu rallonges ta robe. C'est ça que ça voulait dire.
C'est l'éducation. Hein. C'est sa façon d'enseigner.
Dans sa façon de machin, elle se moquait de moi, mais elle savait qu'en faisant ça, elle ne m'a pas engueulée, elle ne m'a rien dit, mais elle savait que son attitude allait m'obliger à penser que c'est parce que le vêtement est trop court qu'il faut que je le rallonge. Et je l'ai rallongé. Voilà.
Des bons souvenirs. Qu'est-ce qui vous a motivé, Jocelyne, à écrire, d'écrire ce livre hein? Et surtout aujourd'hui que Jacob n'est plus avec nous.
Ah ben j'ai commencé avant que Jacob ne s'en aille.
Ah donc, d'accord, quand même.
Oui, quand Jacob est décédé fin juillet de l'année dernière, le livre était déjà fini.
Ah.
Je devais remettre l'épreuve, comment on l'appelle. Et en fait, je leur ai demandé quelques jours de plus pour avoir l'occasion d'écrire quelque chose pour Jacob. Et en fait, j'arrivais pas à écrire. Je voulais surtout pas être triste. Et puis j'ai eu l'idée de faire cette conversation d'une page avec lui. Et voilà.
Et en parcourant le livre, hein, comme j'ai essayé de lire certains, les passages que je viens de lire. On sent qu'il y a des vérités, on sent qu'il y a un peu de tout alors, mais expliqué d'une façon humoristique, si je dois le dire ainsi. Et c'est votre personnalité, c'est la personne que je représente aussi. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vous-même voulu écrire cette histoire ? Ou ces histoires ?
C'est-à-dire que je ne pouvais pas l'écrire autrement. Pourquoi ? Parce que je faisais partie d'un groupe, Kassav. Où en général, je veux dire tout le groupe, on a ça de très antillais en nous, c'est-à-dire l'art de la dérision. On aime se moquer de nous. Voilà. Donc quand il nous arrivait quelque chose, il fallait qu'on tourne cette chose en dérision, ne pas la solidifier en quelque chose de violent ou de machin, surtout si on s'en sort. Je veux dire, il y aurait eu peut-être un drame que peut-être qu'on aurait réagi autrement, j'en sais rien. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas de drame, Alors on pouvait mais complètement dédramatiser la chose. Et c'était une façon de faire. Et c'est ce que j'ai appris avec mes copains. Parce ouais. que moi, j'étais toujours très... C'était la rigueur, j'étais un peu rectiligne, machin. Je faisais toujours des remarques. Ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mmh. C'était un peu la résultante de mon éducation. Et j'ai appris, en fait, à être plus souple, à être un peu plus... Respire, je suis... Il me dit, respire, respire. Et donc, voilà. Et donc, j'ai appris ça avec eux.
Ouais.
J'ai appris plein de choses avec eux. Je pense ouais. que je leur ai appris aussi des choses, mais j'ai appris plein de choses avec
eux. Ah, mais c'est sûr qu'ils ont
aussi notamment, et notamment, être vivre ensemble. Parce ouais. qu'en fait, on est différents tous. Jusqu'à maintenant, on a des façons différentes de penser, d'analyser les choses, etc. Mais il y a ce respect de l'autre et sa façon d'être, d'analyser, mmh. compagnie. Son ego doit être mis de côté, ça c'est clair. Quand vous faites partie d'un groupe, c'est le groupe qui compte.
Mmh. Mmh.
C'est ça.
C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Et donc le livre est déjà... Les gens peuvent s'en... peuvent trouver le livre, j'ai vu, sur Amazon, un peu partout.
Oui.
Ouais, c'est ce qui est très important. Mais j'ai beaucoup aimé les passages. Et moi, je vais même acheter pour mon frère qui adore le cassave et il va bien. Mais est-ce que vous voyez pas un film après ça? Ou un document?
Moi, si quelqu'un voit un film, je suis open. Mais moi, non, je ne suis pas cinéaste. Je ne vais pas m'inventer cinéaste. J'ai déjà suffisamment sur mes épaules. Aïe. Par contre... en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver justement des éditions pour qu'il y ait des traductions dans d'autres langues, en anglais et en portugais surtout. Parce que l'Afrique lusophone
et anglophone aussi,
je pense, souhaite lire cette histoire-là.
Mm.
Et les anglophones aussi de la Caraïbe, les gens qui sont aux États-Unis, etc. Mm. Je pense qu'il serait bon qu'il y ait déjà au départ ces deux versions-là, portugaise et anglaise, et que bon, il faudra qu'on ait d'excellents traducteurs pour pouvoir procéder aux nouvelles versions. Voilà,
exactement. Je pense que toute cette communauté portugaise ou anglophone va bien être contente avoir cet ouvrage traduit en plusieurs langues. Ça serait très important. Alors, je finis peut-être, on commence à chuter un peu avec cette interview. Quel a été votre meilleur souvenir, je dirais, avec Cassav? Je sais qu'il y en a beaucoup, je sais.
C'est toujours difficile de dire.
I know.
Alors, il y a plein de souvenirs. Moi, je sais que celui qui vient, les souvenirs qui viennent spontanément, évidemment, il y a tous les anniversaires. Tous les anniversaires, que ce soit les 10 ans.
Ouais.
C'était la première fois en Guadeloupe, on a fêté les 10 ans de Cassav. Il y avait 40 000 personnes. C'était la première fois qu'on réunissait autant de monde aux Antilles, ensemble, sur un espace. Il disait que justement la Guadeloupe penchait d'un côté. On a fait un autre concert, qui était un concert gratuit organisé par une grande surface. En fait, ils avaient décidé de payer ce concert de Cassav et ils l'offraient aux clients. Donc les clients devaient venir récupérer leurs billets. Évidemment, si vous venez dans un supermarché récupérer un billet, vous en profitez, vous achetez un kilo de sucre, un kilo de viande, etc. Donc c'est tout bénéfice pour eux. Donc ils avaient trouvé ce truc-là et on a eu 70 000 personnes à la Guadeloupe. On a fait le premier carnaval antillais en 1986, je crois, le premier carnaval de Paris. C'était sur l'esplanade de Vincennes et il y avait, chiffre de la police, 250 000 personnes. Chiffre des organisateurs, 300 000. Mais bon, il y avait en tout cas plus de 250 000 personnes ensemble là. C'était un concert gratuit. C'était époustouflant. On était bouche bée. Quand on est monté sur scène et qu'on a vu les gens, mais on n'avait plus de voix. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu les 10 ans, les 20 ans à Bercy, mais surtout les 30 ans au Stade de France et les 40 ans à l'Arena. Ce sont des souvenirs absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Et puis, tous ces voyages surprenants. Mmh. Je veux dire que ce soit l'Afrique, quand on a vu justement toute l'effervescence qu'il y avait, on ne s'y attendait pas.
Ouais.
Et en fait, on allait de surprise en surprise. Mmh. Et quand on est allé au Japon aussi, pareil. Et quand l'URSS maintenant, on a joué là-bas, à Leningrad.
Ouais.
C'est un autre nom. Ça s'appelle plus Leningrad. Oui, c'est Leningrad, mais ça. Ouais. Donc, bref.
Ils ont changé les noms, ouais. Ouais.
Voilà. Donc on a joué là-bas. Donc j'ai dit, mais attends, est-ce qu'ils connaissent là-bas? Mais en fait, ils sont venus par curiosité. On avait un concert, de 11 concerts, finalement, c'est devenu 3 concerts en URSS. 3. Voilà. Alors, il y a 2-3 personnes qui partaient parce que c'était pas leur tasse de thé. Mmh. Voilà. Mais les autres restaient et il y avait des étudiants africains devant qui mettaient l'ambiance et eux qui imitaient les étudiants africains. Et les concerts se sont super bien passés aussi. Il y a eu plein de tournées comme ça. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, le Chili. Tu aurais pu imaginer qu'un groupe antillais ait joué jusqu'au Chili. On a fait un festival, le festival de Viña del Mar là-bas. C'est extraordinaire. On a joué aussi à comment on appelle ça, en Bolivie, c'était, oh là là, j'ai oublié le nom de la ville. C'était aussi étonnant de voir en fait l'engouement que les gens avaient pour cette musique-là. D'ailleurs, au Chili, c'est là qu'on a compris quelque chose, c'est que les gens au départ, ils ont cru que c'était nous qui reprenions des morceaux que eux ils connaissaient en espagnol, et en fait, tous nos titres phares avaient été repris en Amérique du Sud en espagnol. Et les gens, un titre par exemple comme qui sort en ce moment d'ailleurs en France avec Gente de Zona et Jean-Philippe Martelly de Casas, il a repris son titre Rete Usa La Hoguera.
Ouais, j'ai vu Karine m'a envoyé.
Gente de Zona a repris ce titre-là avec Jean-Philippe
en espagnol.
Et les gens vont enfin comprendre quelle est l'origine de ce titre-là qui a été un tube mais massif. Oui. Je veux dire, dans toute l'Amérique du Sud,
exactement,
le titre Rete, chanté par Anna, je crois que c'est Anna Marie, hein, ou c'est, elle a un nom comme ça, Anna quelque chose. Et c'était un immense tube qu'on pouvait entendre au Venezuela, n'importe où. Quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais je vais prendre un bus au Venezuela, j'entends Rete, mais en espagnol. Et on ne savait pas ça. Et tous, ils ont fait croire que c'était leur titre à eux. Et c'était des reprises des morceaux de Qatar qui n'arrivaient pas là-bas. C'est-à-dire que les morceaux étaient bloqués à l'arrivée pour que les artistes reprennent les chansons. Et quand on est arrivé, nous, et qu'on a été joué.
Et eux, ils pensaient que vous étiez en train de chanter les chansons des leurs artistes.
Les chansons des autres, dans notre langue. Alors que c'était le contraire.
Le contraire.
J'étais obligée d'aller en radio pour le leur dire. Ah. Leur dire que les titres originaux sont de Qatar. Mais les gens de l'Amérique du Sud sont habitués aux chansons de Qatar. Mais en espagnol.
La plus belle histoire.
C'est ça. Donc, voilà.
Waouh. Mais là, on comprend qu'il y a beaucoup de bons souvenirs. Là, c'est clair. Ouais. Et tous ces auditeurs, ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, à propos de ce livre, Jocelyne Berroir, qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir?
Je vais leur dire que s'ils ont envie de savoir un petit peu tout ce qu'on a traversé, que c'est peut-être que dans ce livre-là, ils vont avoir leurs réponses. Alors évidemment, moi, c'est mon regard. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, que c'est Kassav vu de l'intérieur, c'est-à-dire ce que Jocelyne a vécu dans Kassav. Maintenant, si Jacob était encore là et qu'il devait écrire le sien, ça aurait été peut-être différent. Mmh. L'histoire même de la création de Kassav aurait peut-être été plus complète, aurait peut-être eu des choses en plus ou vues autrement. Mais je veux dire, lui, il pourrait parler de comment il était avant de monter sur scène, avant comment il composait, comment il faisait. Donc il aurait pu raconter une autre phase de Kassav. Mmh. Donc j'espère que Jean-Claude, Jean-Philippe, Georges auront le courage, en fait, non pas d'écrire, parce qu'on peut justement toujours trouver quelqu'un pour nous aider à le faire. Et je veux dire, mais qui puisse réellement le faire, qui raconte leur histoire. Parce qu'il faut laisser des traces pour les jeunes qui arrivent après. Parce que je sais que quand on se pose des questions sur Stelio, sur Léona Gabriel Sohim, qui sont des anciens artistes de chez nous, qu'on n'a pas connus, nous, je veux dire, on se pose quelquefois des questions sur leur vie, comment ils faisaient, ils étaient à Paris, mais ils vivaient où, ils travaillaient où, est-ce qu'ils gagnaient leur vie, est-ce qu'ils ne gagnaient pas leur vie, est-ce que c'était difficile, pas difficile. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qu'on ignore, parce que ça n'a pas été raconté. Donc il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses de l'extérieur, qui viennent raconter ce qu'ils savent, eux, de ce qu'ils ont vu. Mais c'est peut-être pas la réalité de l'artiste lui-même. Donc je trouve nécessaire que chacun écrive son histoire, sa propre histoire, qui raconte comment il a vécu ci et ça, et c'est très important.
Ils ont eu la chance de lire un temps pour lire votre ouvrage, les autres, les amis.
les autres GAFAM, je vais leur donner le livre de sortie, ils l'auront. Jacob a, je crois que Jacob a eu le temps quand même de voir quelques...
De voir un peu avant sa mort, ouais.
Ouais, je lui avais envoyé, il me semble, dans les premières moutures et choses comme ça. Le manager, je lui avais envoyé aussi. Donc, il a eu l'occasion. Mais bon, les autres, ils sont tellement occupés que...
ils ont passé tout.
J'aurais... Voilà, donc, ils vont lire ce qu'ils veulent.
Exactement. En tout cas, tous les amis vous disent merci qui sont en train de nous suivre et qui vont continuer à vous suivre et continuer à faire ce que vous faites de bien et surtout à prêcher l'amour comme vous venez bien de le faire. Merci Jocelyne.
Merci beaucoup. Merci.
Ciao, ciao. Bonne nuit.
Ciao.
Ciao, ciao. Bye bye.
Kitala. C'est avec cette chanson, les amis, qu'on atterrit. On se retrouve demain dans Country Music, dans RM Show. Merci beaucoup de rester à l'écoute de RM Show. On est ensemble, c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Jah bless.
C'était RM Show, une émission de VOA.